Lorsque nous arrêtons de nous activer, de vouloir ceci ou cela, indépendamment de ce que nous faisons, quelque chose se passe qui purifie nos tendances, nos schémas, notre système de protection, d'une part, et qui libère ce que nous avons déjà totalement à l'intérieur, mais qui est voilé par trop d'activités, par ce qu'on appelle avidya, l'ignorance. Et quand le Bouddha parle de la première vérité, il y a de la souffrance dans la vie. Il parle de son expérience. Il parle de ce que nous pouvons constater dans une retraite, en nous-mêmes comme chez l'autre, et de combien cette peine ou cette douleur nous fait peur. Nous avons peur de souffrir. Nous avons peur que le monde souffre, que les autres souffrent. Ceux que nous aimons. Et dans l'exercice de la méditation, ce qui fait que cette peur de la souffrance se transforme, c'est la rencontre. Nous rencontrons l'expérience telle qu'elle est, vipassana. Nous sommes des êtres sensibles et la méditation ne va pas nous enlever notre sensibilité. Au contraire, elle va ouvrir le cœur. Mais en même temps que le cœur s'ouvre, l'instinct de réactivité à la souffrance s'amenuise. Et la confiance, ça n'est pas du tout une assurance ou quelque chose où je m'accroche à des sécurités. C'est au contraire cette manière cette force intérieure qui fait que de plus en plus je suis prête à tout recevoir. Quelque chose s'ouvre dans le sens d'une puissance qui n'est pas liée à un moi qui veut, mais au contraire à une force de lâcher prise. J'ai compris, le Bouddha parle de la souffrance comme de quelque chose d'abord à entendre, j'entends que, ah ouais, il y a de la souffrance dans la vie, c'est vrai, dans la mienne, il y en a en tout cas, je pense dans la vôtre aussi, c'est vrai. Et une fois que nous avons entendu ça, chaque fois qu'il y a souffrance, nous ouvrons l'oreille et le cœur. Ah ouais, juste maintenant c'est dur, parce que la tendance, c'est de justement ne pas vouloir aller là. C'est dur, j'y vais pas. C'est dur, je vais ailleurs. Ou je prétends, ou je m'étourdis, ou je pars dans le mental. pour donner plein d'explications. J'ai entendu que la souffrance existait, la peine existe, et quand elle émerge, je la respecte. J'ouvre mon cœur et mon oreille. Comment est-ce juste maintenant? Oui, c'est désagréable. C'est désagréable. Le moi, il n'aime pas. Mais nous ne pouvons pas faire l'économie de rencontrer vraiment ces moments douloureux et d'attendre, de ne rien faire, de ne rien tenter pour changer, pour aller ailleurs. Parce que plus nous cherchons à aller ailleurs, plus nous intensifions le processus, le système de défense. Ce que nous cherchons, c'est à comprendre la souffrance. Et la comprendre, c'est l'embrasser, lui mettre les bras autour. De manière à créer ce retournement où ça n'est plus moi qui suis mon propre refuge. Je ne prends pas refuge dans moi, ma manière d'exiger, de contrôler, de fuir, d'avoir peur, d'être enthousiaste, de vouloir ceci ou cela, mais de vraiment sentir combien ce lâcher prise est plus profondément satisfaisant et puissamment délicieux et précieux et bénéfique que tout accrochement à quoi que ce soit. Et d'une certaine manière, lorsque ce moi lâche, le refuge est dans la présence elle-même, dans ce qui n'est pas vraiment nommable, mais on essaye de le nommer. Le rien, le tout, Dieu, le nirvana, ce ne sont que des mots qui ne représentent absolument pas l'énergie liée au lâcher-prise. La plénitude de ce rien qui est total. Et la présence, elle est là pour nous permettre de réaliser ce potentiel à l'intérieur de nous-mêmes, de l'actualiser de plus en plus souvent. Parce que la résonance, nous l'avons tous, nous savons tous combien un moment de plénitude est bienfaisant. La souffrance est notre meilleur ami sur ce chemin. Parce que la souffrance nous permet de fortifier la présence. Et lorsque nous sommes assis et que le corps a mal et que les pensées du passé ou les projections du futur ne sont pas très réjouissantes, que nous pensons au monde, à son aveuglement, c'est dukkha, il y a dukkha. Et de simplement rester tranquille et en paix avec le moment qui est là, c'est la clé dans la serrure. les épreuves, qu'elles soient ici et maintenant, où tout d'un coup il y a cette émergence de confusion, de doute, de douleur physique, que ce soit à plus large échelle, parce que nous avons vécu un trauma qui fait que certaines choses reviennent, ou parce que nous vivons un deuil ou quelque chose de très douloureux qui demande du temps à cicatriser. Quelle que soit la profondeur ou la longueur de cette émergence de dukkha, le chemin est toujours le même. Reconnaître, d'abord nommer, reconnaître, accepter. Et plus qu'accepter. Comprendre. Dans notre nature ignorante, il y a toujours ce vague espoir que nous pourrons un jour avoir à jamais quelque chose qui est paisible et tranquille et plein, avec ce sentiment d'appartenance. De fraternité, de non-séparation. Et d'une certaine manière, c'est vrai, nous pouvons le vivre. Mais ce n'est pas comme nous croyons. Ce n'est pas que nous allons pouvoir tenir quelque chose de cet ordre-là. C'est que l'impermanence a été tellement visitée, tellement constater, on peut constater qu'elle n'a plus d'impact, elle a moins d'impact. Comme dit Ajahn Sumedho, nous ne pouvons pas changer le monde, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mais nous pouvons changer notre regard sur le monde. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons demain, c'est quelque chose que nous faisons maintenant. Ok, maintenant c'est dur, ou maintenant c'est vraiment simple et bon. Mais je ne suis pas plus l'un que l'autre. C'est ça qui est difficile à comprendre. Toujours ce vague sentiment que quand ça va bien, j'y suis, et quand ça ne va pas, je n'y suis pas. Et nous faisons cette différence entre la sagesse et l'ignorance. Quand je me sens sage et pleine de compassion, d'équanimité, c'est génial. Et quand je me sens déprimée, mal à l'aise, triste, c'est horrible. La méditation nous aide à équilibrer tout ça. Et peu à peu, nous nous rendons compte que la différence que nous faisons entre Mara, tout ce qui est fait obstacle, ce qui obstrue, ce qui limite, et Nirvana, ce qui ouvre, ce qui est généreux et plein, cette différence est l'ignorance elle-même. Et que d'une certaine manière, lorsque c'est cette obstruction qui arrive, ou cette mise à l'étroit, c'est l'éveil qui est là. Mais il s'est déguisé. Il s'est déguisé pour nous permettre d'avancer un bout encore. Pour nous permettre de grandir.
vous lis une parole d'Ajahn Chah.
Si vous voyez clairement la vérité à travers la méditation, la souffrance va se décrocher juste comme une vis. Quand vous dévissez une vis, elle se retire. Elle n'est plus fixée fortement, comme quand vous la vissez dans le sens de la montre. L'esprit se retire de cette manière. Il lâche, il se desserre, il abandonne. Il n'est pas fortement lié au bien et au mal, aux possessions, à la louange ou au blâme, au bonheur ou à la souffrance. Si nous ne connaissons pas la vérité, c'est comme si nous serrions tout le temps une vis. Vous la vissez jusqu'à ce qu'elle vous écrase et vous souffrez de tout. Quand vous vous retirez de tout ça, vous devenez libre et en paix. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, à vraiment comprendre. C'est que le lâcher-prise, c'est en même temps le lâcher-prise de la souffrance et du bonheur. L'un ne va pas sans l'autre. Et le résultat, c'est ce rien qui est grand bonheur. Mais le moi doit apprendre à reconnaître ça. Il ne le sait pas. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Le moi croit que c'est en s'accrochant qu'il se libère. Et bien sûr, dans une retraite, nous nous accrochons aux objets spirituels. Une bonne concentration, une bonne expérience. Ça n'est pas faux de le faire. Nous devons passer par là. Et en général, notre intelligence intuitive nous dit ok, là t'es dans la cible, mais t'attache pas, t'as pas besoin de t'attacher. Tu peux apprécier, t'ouvrir pleinement. Il n'y a pas besoin de s'attacher. Ça n'amène rien de plus. La compréhension de cette première vérité, elle est liée à l'expérience douloureuse. C'est évident que j'ai mal. Elle est aussi liée à ce vague sentiment de manque. Et dans une retraite, souvent nous ressentons quelque chose qui n'est pas... C'est juste pas vraiment assez. Et c'est aussi lié à la limite des khandhas, c'est-à-dire que voilà, nous ne pouvons être que nous-mêmes. Souvent je me dis que si j'étais Thierry, Adriana, Laurence et puis Maria, si j'avais tout ça, waouh. Mais nous ne sommes que nous-mêmes. Nous ne pouvons parler qu'avec un esprit limité. Et c'est pour ça que c'est bon que nous soyons dans ces sanghas qui nous permettent de jouir des bienfaits de chacun, des qualités de chacun. Parce que nous sommes limités par notre genre, par notre culture, par notre milieu familial. Notre bagage karmique. Et c'est tout ça que nous purifions. Tout ce avec quoi nous sommes venus sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai comme petit papier ? C'est Ezra Baïda qui dit « La paix ne se trouve pas en cherchant la paix, mais en habitant totalement ce qui est. Et c'est beau dans une retraite de pouvoir se souvenir que à tout moment je peux habiter totalement ce qui est. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. C'est juste ce qui est. Mais je l'habite totalement. Et alors la vie devient vraiment valable et précieuse, non pas tellement parce que nous sommes en vie, mais parce que nous sommes dans ce chemin vers le Dharma. Ce qui obstrue, c'est la deuxième vérité, ce qu'on appelle tanha, la soif. Nous avons soif de bonnes expériences, soif d'être vu, d'être reconnu, aimé. Et c'est touchant de sentir cette sensibilité du moi. Nous avons tellement besoin d'être connus et appréciés. Et c'est tellement douloureux quand on nous rejette, quand on nous critique, quand on nous aime pas. Douloureux. Et c'est ok. Je me laisse sentir, je me laisse toucher par la flèche de la souffrance et je fortifie la présence. Et alors j'ouvre la cage. C'est de cette manière que nous ouvrons toute cette masse d'ignorance. Le blâme est terrible pour le moi parce que derrière il y a cette belle intention de vouloir être libre. Juste il croit que c'est au mauvais endroit. Ça n'est pas là que la libération va pouvoir nous offrir sa beauté. Je vous dis encore Ajahn Chah. Nous sommes comme des oiseaux en cage. Peu importe que la cage soit merveilleuse, l'oiseau n'est pas content. Il a sans cesse l'espoir de la liberté et il souffre d'être enfermé. Les riches et les privilégiés n'ont pas plus de chance. Ils sont seulement enfermés dans des cages dorées. Depuis le moment où tu entends le Dharma jusqu'au moment où tu es Dharma, tu vas encore souffrir et tu ne seras pas libre de l'expérience jusqu'à ce que tu sois Dharma. Ton bonheur est dépendant des facteurs extérieurs. Tu t'appuies sur eux. Tu t'appuies sur les plaisirs, la réputation, la richesse ou les objets matériels. Tu peux avoir toutes sortes de connaissances, mais elle est teintée par les intérêts du monde. Et tu ne peux pas être délivré de la souffrance. Tu es encore comme un oiseau en cage. Et le seul moyen de se libérer de la cage, c'est de la voir. Je vois que je suis en cage, juste maintenant. Très important comment je regarde la cage. Parce que si je regarde la cage en voulant qu'elle soit plus là, en voulant, si je manipule l'expérience et le comment je me lie à l'expérience, le lâcher prise n'est pas possible. Je me souviens dans une retraite, c'était tellement clair. Je voyais très bien l'expérience, il y avait du mépris pour quelqu'un d'autre. Et j'avais un peu honte, et je voyais le mépris, je voyais très bien la honte. Et puis ça continuait, je parlais, mais je sentais Elle est vraiment sa force. Et puis à un moment donné, c'est beau comme l'intelligence intuitive arrive et parle d'une certaine manière et dit, elle m'a dit, mais t'ouvres pas assez. Aime-le, ce mépris, aime-la, cette honte. Et quand ce mot est arrivé, ça a fait waouh. Parce qu'il n'y avait plus de moi, il n'y avait plus ce moi qui veut. On veut même ce qui est tellement bon et bénéfique. Alors que le lâcher prise, il vient de l'ouverture, de l'amour, pur et gratuite, nullement teinté par une exigence quelconque. Tout va ensemble. Quand je comprends la souffrance, ça veut dire que mon attitude est une attitude d'équanimité. Et que je lâche un peu ces perpétuelles préférences que nous avons. Suchito qui dit « Le royaume de la pleine conscience n'est pas concerné par le fait d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose. Il est concerné par le fait de parfois avoir quelque chose et parfois pas, mais de toujours pouvoir l'observer. C'est cela qui permet l'éveil de la sagesse. » La libération ou l'éveil ne peut être que maintenant. C'est maintenant. Et avec la présence, c'est pareil. Je ne peux pas bien être là ou mal être là. J'y suis ou j'y suis pas. J'y suis avec quelque chose qui est douloureux ou quelque chose qui est bénéfique. Mais l'acte même de conscience, c'est juste de la conscience. Et si je n'y suis pas, je n'ai pas besoin de me désoler parce que au moment où je me rends compte que j'y étais pas, ben maintenant j'y suis. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Donc toute cette quête de présence où je suis plus ou moins culpabilisée ou pas contente ou contente et fière. C'est intéressant de l'explorer, comment le moi fonctionne dans ce sens du bien et du mal. Et quelquefois, nous sommes sous l'emprise. Nous pouvons voir, plus ou moins, quelquefois c'est puissant, quelquefois c'est léger. Il y a toujours le silence et l'espace auquel nous pouvons offrir notre attention, sentir ce contenant qui nous contient tous. Et alors, il y a un corps. Le Bouddha dit observer son corps comme un corps. Moins d'identification. Parce que toute la souffrance vient de cette émergence du sens du moi. Je fais bien, je fais mal. Et lorsque nous prenons refuge dans la présence, ou dans le Dharma, ou dans le Bouddha, ou dans Jésus, ou dedans. Le corps est habité par quelque chose qui est plus, qui est libre, en fait, qui est libre. Qui n'a pas besoin d'être ceci ou cela. Nous apprenons donc à ne pas recréer de la souffrance parce qu'il faudra repurifier. Nous nous efforçons de ne pas blesser ni moi-même ni l'autre, de ne pas critiquer, de ne pas comparer, de ne pas... Et puis quand nous le faisons, ben voilà, c'est fait, ça échappe. Et nous purifions tout ce qui a été émis. C'est beaucoup, une retraite de méditation, c'est beaucoup passer de cette habitude où j'émets toujours quelque chose à travers l'acte, la parole, les pensées. Je vois combien j'émets. Et puis j'arrête. Et je viens dans cet espace de réceptivité. Et c'est maintenant. Maintenant. Je peux sentir, ok, je suis dans une condition où j'offre un enseignement. J'aimais. Mais il y a aussi cet espace de réceptivité qui sent ce corps, cet esprit. Ces conditions où vous êtes là, je ne parlerai pas si vous n'étiez pas là. Nous sommes totalement interconnectés. Et ça aussi, c'est une manière de conscientiser le non-moi. Beaucoup de paroles pour, au fond, uniquement encourager ou stimuler le corps et l'esprit à continuer à pratiquer et surtout à sentir la valeur des moments difficiles. Qui sont un aiguillon puissant vers la libération. Je vais finir par une parole de Etty Hillesum. Pour moi, c'est toujours très touchant de me connecter à des personnes qui ont un karma très difficile. Etty Hillesum était dans un camp de concentration près d'Amsterdam. Pour voir ce potentiel de la nature humaine à transcender ce qui est douloureux. Et à ne pas partir, elle, c'est Etty qui dit, ce qui est redoutable, ça n'est pas la souffrance, mais c'est la représentation de la souffrance. La souffrance, quand elle émerge, on la porte sur ses épaules. On fait au mieux on la traverse. Mais la représentation de la souffrance, c'est redoutable. Et on peut le voir dans notre propre expérience. On peut se faire un enfer d'imaginer comment ça pourrait être. Je ne sais plus qui c'est qui disait « J'ai eu énormément de malchance et d'épreuves dans ma vie. La plupart d'entre elles ne sont pas arrivées. » Et de se souvenir quand quelque chose est douloureux, si je pars dans la représentation et dans les constructions, je crée l'enfer. Mais si je viens dans le ressenti et que je nomme avec peu de mots, comme l'expérience, comme l'exercice que nous faisions en dialogue conscient cet après-midi, je nomme avec peu de mots le réel de l'instant. Ça devient du non-moi. Ça se transforme. La somme de souffrances humaines qui s'est présentée à nos yeux durant les 6 derniers mois et qui continue de s'y présenter chaque jour dépasse largement la dose assimilable par un individu durant la même période. C'est pourquoi on entend répéter autour de soi sur tous les tons « Je ne veux pas penser, je ne veux pas sentir, je veux oublier le plus vite possible. » Il y a là un grave danger. Ce qui importe en effet, ce n'est pas de rester en vie, mais comment on reste en vie. Quand on n'a pas en soi quelque chose de très fort qui nous porte à considérer que l'extérieur des choses ne fait pas le poids par rapport à l'intérieur, alors on a tout lieu de sombrer ici dans le désespoir. Je veux juste vous dire, la détresse est grande, et pourtant il m'arrive souvent le soir, quand le jour écoulé a sombré derrière moi dans les profondeurs, de longer d'un pas souple les barbelés, et toujours, je sens monter de mon cœur, je n'y puis rien, c'est ainsi. Cela vient d'une force élémentaire, la même incantation. La vie est une chose merveilleuse et grande. Nous pouvons prendre un moment en silence.